Alors j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Laurent Grégoire, qui va nous parler d'un aspect extrêmement important de la politique des entreprises, qui donne même d'ailleurs un tout nouveau visage à l'entreprise, ce qu'on appelle en anglais « supply chain management », qu'on a traduit, qu'on traduit comme on peut par « logistique », et qui débouche sur les questions d'entreprise virtuelle. C'est un aspect important et extrêmement vivant et actuel de la gestion des entreprises. Alors, notre conférencier, Laurent Grégoire, est né en 1955. Il est ingénieur de l'École centrale de Paris, diplômé de la Chambre de commerce franco-allemande et de l'École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth. Il est actuellement directeur de la logistique du groupe Ford James. En même temps, il assure beaucoup d'enseignements et de conférences sur son sujet et sa spécialité, qui est justement supply chain management et logistique. Il est membre du comité logistique de l'Association européenne des industries de marque, membre du comité des entretiens européens de la technologie. Une grande partie de son travail porte sur la logistique, directeur de la logistique de Ford James, mais disons ses interventions et son travail pédagogique et associatif est aussi lié à ces questions-là. Il a publié les ouvrages suivants, Logistique, démarches et techniques, d'un ouvrage collectif, aux éditions de l'AFNOR en 1994. Il a publié aussi de nombreux articles dans des revues de logistique, Logistics Technology par exemple, et dans la revue Logistique et Management. Il va paraître un ouvrage collectif auquel il a participé, Les bases de la logistique intégrée, aux éditions de l'AFNOR durant l'été 2000. Et puis bien sûr, vous trouverez sa contribution dans le tome 3 ou le tome 4 de l'Université de tous les savoirs à l'automne, quand nous aurons avancé encore notre publication. Voilà, je vous remercie, je lui passe la parole pour une cinquantaine de minutes.
Bonsoir. Cette conférence relève d'une triple incongruité. D'abord, parce que la logistique trouve peut-être, mais ce n'est pas évident en soi, sa place dans une université de tous les savoirs. Elle n'est pas encore, une discipline universitaire reconnue. Cette science, car je crois personnellement que c'en est une, ne se caractérise pas encore, par une somme de savoirs reconnus. Deuxième incongruité, parce que le thème qui m'a été proposé et que j'ai accepté présente en soi deux paradoxes. Le premier, c'est de commencer par un terme américain, le supply chain management, sans traduction volontairement, je m'en expliquerai. Mais deuxième paradoxe, par la juxtaposition ensuite de deux termes tout à fait antinomiques, qui sont l'entreprise virtuelle et la logistique. Qu'y a-t-il de plus matériel que la logistique? Quel lien peut-il y avoir avec l'entreprise virtuelle? Enfin, troisième incongruité, parce qu'il s'agit d'une des rares conférences de l'UTLS donnée non pas par un universitaire, un chercheur, ni même un consultant, mais, comme cela vient de vous être dit, par un ingénieur, cadre d'entreprise, donc confronté à la mise en pratique quotidienne et responsable dans la durée de ses actes. Je précise cependant qu'au-delà de mon expérience au sein du groupe Ford James, groupe fabricant de produits de grande consommation, dont vous connaissez en France les marques Lotus, OK, Vania, Moltonel, Tricostéril, D-Makeup et d'autres, mes propos se baseront aussi sur un certain nombre d'activités paraprofessionnelles que l'on vient de rappeler. Il est courant aujourd'hui de décrire le fonction d'une entreprise par ses processus. Hier, on parlait d'organisation scientifique du travail. Et je me dois, dans ces murs, de commencer en évoquant la grande figure de Raymond Boisdet, qui eut le rare mérite de concilier un triple engagement. D'abord, comme ingénieur, il était centralien lui aussi, et cadre d'entreprise. Ensuite, dans la vie de la cité, puisqu'il fut député, ministre. Enfin, comme enseignant, puisqu'ici même, dans ses murs, il fut titulaire pendant 15 ans de la chaire d'organisation scientifique du travail. La logistique relève d'abord, j'en suis convaincu, d'une organisation scientifique du travail bien pensée, mais aussi évolutive, sa dimension humaine étant trop souvent oubliée, pourtant c'est l'essentiel, j'y reviendrai brièvement. J'aborderai principalement trois questions. Qu'est-ce que la logistique? Quelles évolutions et perspectives? Et plus spécifiquement, l'entreprise virtuelle. Qu'est-ce que la logistique? Il faut d'abord rappeler que la logistique est à l'origine militaire. Le terme, on n'en est pas sûr, venant probablement du terme logis, qu'on retrouve dans le maréchal des logis. La logistique fut en fait consacrée par le général Antoine Jomini, ce général qui a sans doute fait perdre Napoléon, puisque au début des années 1810, il partit avec armes et bagages au service du tsar pour le conseiller, notamment sur les questions logistiques, puis il revint après en France. Et dans son fameux Arc de la guerre, publié en 1838, il définit la logistique comme l'une des six parties de l'art de la guerre, comme étant l'application pratique de l'art de mouvoir les armées. Lors de la Première Guerre mondiale, mais ensuite surtout de la Seconde, vous le savez, la logistique fut un élément essentiel de la victoire des Alliés. Mais vous ne saviez peut-être pas que ce fut en grande partie grâce aux conseillers logistiques des gouvernements américains, aussi bien durant la Première que la Deuxième Guerre mondiale, c'était le même, un Français, qui fut d'ailleurs en 1945 le président ensuite du comité français d'approvisionnement, French Supply Council. C'est le même homme qui fut à l'origine de la construction européenne ensuite, Jean Monnet. La logistique militaire a abouti, pour les produits à longue durée de vie, au concept de soutien logistique intégré, l'ILS aux États-Unis, qui intègre dans une même démarche systémique l'ensemble des activités qui concourent à la disponibilité d'un produit ou d'un équipement pour un utilisateur, depuis la conception du produit ou de l'équipement jusqu'au démantèlement, en passant par la production et la maintenance. Et dans soutien logistique intégré, il y a intégré pour bien montrer que ce soutien logistique doit s'effectuer dès la conception, doit être intégré à la conception même des produits. On en a des applications directes, bien sûr dans le domaine militaro-industriel, mais également pour le TGV, Airbus, etc. Parallèlement à cette application, le concept logistique s'est développé dans les années 60 puis 70 dans les universités américaines comme un élément important de la gestion des entreprises, en premier lieu pour les produits vendus aux consommateurs. On a alors parlé de logistique de flux. Ces universités, très marquées par l'approche marketing, donnèrent comme objectif principal à la logistique d'assurer le service de livraison des produits auprès des clients. Le service étant partie intégrante avec le produit de l'offre proposée aux clients, telle est la démarche marketing. On propose une offre pour répondre à une demande, cette offre comprend un produit avec le service qui y est associé. Mais il s'en est déduit de part et d'autre de l'Atlantique, on en souffre encore aujourd'hui, d'une forte confusion entre la logistique et la seule gestion de la distribution physique. Vous en avez une illustration régulière par le nombre de slogans logistiques que vous voyez sur les camions qui sillonnent nos routes ou nos autoroutes. Et il faut dire que cette confusion a été d'autant plus forte en France que, contrairement aux autres pays industrialisés, la fonction logistique dans l'organigramme des entreprises est apparue très tôt, dès le début des années 70, avant même que le concept global ne soit vraiment enseigné, compris et mis en œuvre. La fonction n'était donc évidemment que partielle. Et pourtant, la logistique, ce n'est ni le transport, ni l'entreposage, ni la distribution physique. Pourquoi cela ? Il est facile de comprendre qu'on ne peut bien livrer le client que si le produit est disponible au moment du chargement. Que cette disponibilité dépend d'une bonne qualité de gestion des stocks. Il faut avoir le produit en stock. Cette gestion de stock est elle-même fonction du planning de fabrication. A-t-on bien, au bon moment, fabriqué le produit ? Et ce planning de fabrication n'est possible, n'est réalisable, que si les matières premières sont approvisionnées au bon moment, dans les qualités voulues. Tous les flux matières de l'entreprise sont donc, d'une façon assez évidente, interdépendants. C'est ce qui s'est exprimé très rapidement, dès les années 60 d'ailleurs, en français, par l'expression de chaîne logistique, constituée de ces maillons reliés les uns aux autres. Et de cette modélisation en chaîne, on tire immédiatement deux enseignements, l'un issu de la physique, l'autre de la mathématique. En physique, on le sait, la solidité d'une chaîne est égale à la solidité du maillon le plus faible. Rien ne sert d'avoir beaucoup de maillons très solides, tout dépend du maillon le plus faible. Pour la chaîne logistique, une livraison peut être ratée en clientèle, non pas parce que le transport n'était pas bon, mais parce que, bien en amont, par exemple, il y avait eu une erreur d'approvisionnement en matières premières, qui a, par ricochet, entraîné les problèmes tout le long de la chaîne logistique. Enseignement mathématique, on sait, en méthode d'optimisation, que l'optimisation d'une somme d'activités interdépendantes ne résulte pas de la somme d'optimisation locale. Seule une gestion globale des flux de matières et de produits dans l'entreprise peut aboutir à la meilleure productivité, c'est-à-dire au moindre coût. Nous disposons en France d'un référentiel normalisé dans le cadre de l'AFNOR qui nous permet de préciser une telle approche. La logistique y est définie comme la planification, l'exécution et la maîtrise des mouvements et des mises en place, des personnes ou des biens, et des activités de soutien liées à ces mouvements et à ces mises en place, au sein d'un système organisé pour atteindre les objectifs spécifiques. Cette définition, comme vous le voyez, est assez générale, mais elle a été conçue pour répondre à tous les organismes possibles, qu'il s'agisse d'entreprises, notamment concurrentielles, mais également des pouvoirs publics, des administrations, de la santé, de l'armée, etc. Quelques réflexions sur cette définition. Planification, exécution et maîtrise, vous reconnaissez là les trois phases bien connues de toute gestion, de tout management. Suivant le cycle bien connu qu'on retrouve notamment dans la qualité totale, qu'on appelle le PDCA, Plan, Do, Check and Act. La planification est actuellement et clairement le souci majeur des logisticiens. Elle comprend le business plan, le plan industriel et commercial, le PIC, le plan des ressources de distribution, le DRP, le plan directeur de production, le PDP, et sans doute le plus connu aujourd'hui, le plan des ressources de production, le MRP, ou calcul des besoins nets, le CBN. L'exécution est la phase opérationnelle. La maîtrise, elle, inclut le contrôle, puis la comparaison entre l'exécution et la planification, l'explication des différences entre les deux, et à partir de là, la proposition d'action corrective. La performance d'une logistique d'une entreprise est souvent à l'image de la préoccupation principale des responsables. Au départ, quand on commence à s'intéresser à la logistique d'une entreprise, essentiellement, on regarde l'opérationnel, l'exécution. Ensuite, une fois qu'on pense avoir un peu réglé les problèmes opérationnels, on s'attaque à la planification. Enfin, et évidemment, il faut une planification pour pouvoir comparer à l'exécution, on peut attaquer, c'est encore rarement le cas dans les entreprises aujourd'hui, la maîtrise. Nous pourrions résumer cela par la phrase « Dis-moi ce sur quoi tu portes ton attention, je te dirai où en est ta logistique. » La définition se termine par « au sein d'un système ». En effet, la logistique est une démarche systémique. Elle permet, par une gestion la plus rigoureuse possible des interfaces, de transformer une succession d'opérations, les maillons de la chaîne logistique, en un processus global intégré. Mais la particularité du logisticien, c'est de travailler dans un système variable suivant l'optimisation qu'il doit effectuer. Un jour, c'est l'atelier. Le lendemain, c'est le lien entre l'entreprise et un fournisseur. Ce peut être l'optimisation vers une certaine zone géographique d'achalandise, ça peut être toute l'entreprise, etc. Première question que le logisticien se pose, quel est le système que je vais organiser, optimiser? En ce qui concerne les objectifs, pour les entreprises commerciales concurrentielles, ils sont clairs, il s'agit de répondre à un taux de service fixé au moindre coût. Ainsi que l'a dit, dès le début des années 70, James Esquette, premier titulaire de la chaire de logistique à l'Université d'Harvard et d'une façon générale d'ailleurs aux États-Unis. Le taux de service externe vers les clients relève bien sûr d'une décision stratégique. Ce n'est pas de la logistique. Le service appartient à la définition de l'offre, comme je l'indique. Simplement, il est demandé en général aux logisticiens de l'accroître pour tendre vers un taux proche de la qualité totale. Parallèlement, par des optimisations successives, le logisticien recherche une baisse globale des coûts, dont il est aujourd'hui reconnu qu'ils sont de deux natures. D'une part, des coûts opérationnels, mais d'autre part, également, le capital investi qui, pour la logistique, porte notamment dans les stocks et aussi dans la flexibilité de l'outil de production, d'emballage, de distribution. La priorité qui est donnée aujourd'hui dans les entreprises, au moins concurrentielles, à la rentabilité du capital investi, c'est-à-dire aux actionnaires, modifie l'objectif généralement fixé au logisticien. Ce n'est pas une simple optimisation taux de service coût, coût opérationnel. La logistique est plus complexe car aujourd'hui à trois dimensions, taux de service, productivité et rentabilité financière. Et je devrais peut-être dire rentabilité financière, taux de service, productivité. Sur ces questions, il faut rappeler les progrès étonnants faits par certaines entreprises qui ont entamé une véritable démarche logistique, telle que je l'ai définie, et qui l'ont poursuivie dans la durée. On constate des accroissements de taux de service de 80 à 98%, par exemple, des baisses simultanées du coût opérationnel de 12 à 9% du prix de revient des produits, le coût moyen logistique des entreprises industrielles françaises est estimé aujourd'hui entre 12 et 13% de leur prix de revient, donc 12 ou 13% du produit industriel brut français, des réductions de l'ordre d'au moins 50% de la valeur des stocks immobilisés. Démarche systémique, donc, la logistique de flux est à gérer, à l'instar d'ailleurs du soutien logistique intégré, tout au long du cycle de vie du produit. Il faut la prendre en compte dès la conception du produit et son développement. À l'issue de ces phases, donc à droite de ce que vous avez, identification, conception, développement, plus de 80% du coût logistique du futur produit est déjà fixé par les choix effectués en amont durant la conception et le développement. Un grand principe donc pour le logisticien, intervenir le plus tôt possible dans la stratégie de l'entreprise, donc dans la définition de l'offre, aussi bien pour le produit que pour le service. Les activités qui ont des conséquences directes sur la logistique de l'entreprise sont effectuées par la plupart des acteurs de l'entreprise qui ne sont pas eux-mêmes des logisticiens. Les vendeurs pour les commandes, les personnes en atelier de production pour l'application ou non du planning décidé par la logistique, le marketing pour le nombre de références de la gamme, l'éventuelle personnalisation des produits, etc. Le logisticien est donc amené à gérer de nombreuses interfaces humaines, souvent et logiquement conflictuelles à court terme, entre les différentes fonctions que sont le commercial, le marketing, la production, les achats, etc. Dans ces interfaces conflictuelles, il n'agit bien entendu pas comme arbitre, seul le directeur général l'est dans les entreprises, mais comme simple médiateur devant proposer pour tout problème logistique la solution optimale dans l'intérêt de l'entreprise. Trouver une médiation entre l'intérêt du commercial, du marketing, de la production, qui à court terme ne sont pas identiques. S'il n'y arrive pas, tous les problèmes lui retombent dessus. L'intendance ne suit pas, entend-on. Sur l'importance de la médiation, je renvoie simplement à la 127e, si je ne me trompe, conférence du LUTLS donnée par Jean-François Six. La planification et la maîtrise de la logistique s'effectuent évidemment par un traitement d'informations, puisqu'on n'est pas dans l'opérationnel. Et c'est ainsi que plus de 80% des informations informatisées dans l'entreprise doivent servir au logisticien, qui est ainsi le premier utilisateur de l'informatique dans une entreprise. Le formidable accroissement des performances de traitement informatique, la généralisation du temps réel, les applications serveurs, les nouvelles technologies de communication représentent évidemment pour la logistique une possibilité extraordinaire d'accroître sa performance. Tout est aujourd'hui en place pour que puisse être développé, mais ce n'est pas encore le cas, de véritables systèmes experts qui aideraient à tout moment à l'optimisation de l'ensemble des flux par un pilotage, en même temps planification puis maîtrise, pilotage à la fois micro et macroéconomique dans l'entreprise. En conclusion, j'aimerais rappeler ce que aimait à dire le professeur Julien Freund, peut-être ne vous connaissez-vous pas, qui avait eu une carrière, une vie assez extraordinaire, puisque jeune étudiant, il participa à l'attentat contre Pierre Laval, et puis il abandonna toute sa carrière, notamment politique, pour devenir philosophe, il fut sociologue, c'est lui qui fut l'initiateur en France de la polémologie, c'est-à-dire la science du conflit. Et il aimait à dire que le monde était marqué par trois grandes inventions humaines, la roue, le compromis et l'intelligence artificielle. Je trouve assez étonnant de constater qu'il s'agit des trois outils principaux au service du logisticien. La roue, bien sûr, pour la gestion physique des flux. Le compromis, nous l'avons dit, pour la gestion humaine des interfaces. L'intelligence artificielle, cela arrive, pour l'optimisation scientifique du service et des coûts. Rapidement, quelques évolutions et perspectives de la logistique que j'énumérerai avec quelques simples commentaires, faute de temps. D'abord, l'entreprise étendue. Ce concept, aujourd'hui assez répandu, correspond à l'idée que l'entreprise n'est pas seule, qu'elle agit au sein d'un système plus large, incluant ses clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses partenaires, ses prestataires, etc. Dans ce cadre, la logistique doit être une gestion globale des flux, depuis les fournisseurs des fournisseurs jusqu'aux clients des clients, en passant par les sous-traitants des sous-traitants, les prestataires des prestataires, etc. Et c'est là, et là seulement, que réside l'apport supplémentaire de l'expression « supply chain management » par rapport à logistique, terme apparu au début des années 90 aux États-Unis. Les universitaires américains n'utilisaient pas, et les entreprises non plus aux États-Unis, l'expression de chaîne logistique. Le terme de « logistic chain » n'est pas utilisé. Ils ont décidé d'utiliser cette expression de gestion de la chaîne en insistant sur le fait qu'elle doit faire coïncider l'offre à la demande. Or, la traduction du mot « offre » aux États-Unis, c'est « supply », que l'on retrouve, l'offre et la demande, « demand and supply » aux États-Unis. En France, on a estimé, notamment dans ce référentiel, que puisque nous avions déjà ce terme de chaîne logistique, défini d'une façon large, comme nous venons de le voir, et qui traduisait tout à fait ce concept, il n'était pas utile d'inventer une nouvelle expression. C'est la raison pour laquelle il n'a pas paru souhaitable de traduire le supply chain management. C'est la gestion logistique. C'est, si vous voulez, la gestion de la chaîne de l'offre pour répondre à la demande. Et contrairement à ce qui a été dit et écrit très souvent, qu'il est encore, le supply chain management ne concerne donc pas particulièrement l'approvisionnement, qui est une autre traduction du terme supply, et qui est utilisé dans les entreprises françaises en général pour la partie amont, pour l'approvisionnement des matières premières. Cela ne concerne pas non plus l'association des achats à la gestion logistique, et encore moins l'utilisation de nouveaux logiciels, comme là aussi, on le dit souvent. Le développement de la logistique dans l'entreprise étendue se traduit par une imbrication croissante des entreprises avec leurs fournisseurs, par exemple dans le cadre des flux tendus, notamment de l'automobile, par une gestion des stocks souvent confiés, sous-traités aux fournisseurs, ce qu'on appelle le VMI, le Vendor Managed Inventory, ou par des programmes de partenariat avec ses clients, tels que l'ECR, la réponse efficace aux consommateurs, grand programme de partenariat entre les industriels et la grande distribution. Deuxième évolution, les nouveaux logiciels de gestion intégrée et les logiciels de logistique sont arrivés sur le marché il y a quelques années, ces fameux logiciels de gestion intégrée qu'on appelle les ERP, Enterprise Resource Planning, qui font tout et qui représente, on ne l'a pas suffisamment dit, une véritable révolution pour les entreprises, notamment pour leurs conséquences organisationnelles, non pas tellement de par l'automatisation qu'ils apportent, mais surtout par l'intégration qu'ils amènent entre toutes les fonctions. Ils sont basés sur une organisation par processus et notamment mettent en avant l'importance du processus logistique et de son intégration avec le processus financier. Aujourd'hui, peu à peu, ils sont complétés par de nouveaux outils de planification, notamment ce qu'on appelle les APS, les Advanced Planning Systems, et d'autres logiciels aidant à l'exécution et à la planification de la logistique. Ils forment peu à peu la base de ce qui sera demain l'intelligence artificielle au service de l'optimisation logistique. Troisième évolution, l'européanisation et la mondialisation du commerce. Nous l'avons dit, Jean Monnet était à la fois, mais c'est peut-être un peu synonyme, logisticien et européen. L'Union européenne, le grand projet politique actuel au sens noble du terme, est conçu sur le développement des échanges. Comme l'affirmait Jean-François Poncet, ancien ministre des Affaires étrangères, cette Europe qui peut devenir, je le cite, si nous le voulons, le premier ensemble économique de la planète, la logistique en sera probablement l'épine dorsale. La logistique va devoir gérer de plus en plus la complexité croissante des échanges internationaux et mondiaux. Et par ailleurs, comme fonction de l'entreprise, elle doit s'organiser dans les grands groupes mondiaux, dans ces entreprises de plus en plus internationales. Comment ? Bien sûr, en appliquant le principe de subsidiarité pour assurer au niveau optimal d'efficacité la planification, l'exécution et la maîtrise des flux. C'est en effet une des grandes questions des entreprises de taille européenne et mondiale aujourd'hui. Quelle organisation adopter ? Quelle responsabilité, à quel niveau ? Et c'est particulièrement vrai en logistique, qui mélange, nous l'avons vu, des activités opérationnelles, donc a priori proches du terrain, des activités de planification et de contrôle obligatoirement plus élevées. L'application de la subsidiarité est l'un des devoirs du logisticien dans ces entreprises de dimension européenne et mondiale. Quatrième évolution, la sous-traitance ou ce qu'on appelle l'externalisation. L'entreprise, c'est un lieu commun de le dire aujourd'hui, se concentre sur son cœur de métier et fait faire de plus en plus ce qui n'est pas sa spécificité. C'est particulièrement vrai des opérations logistiques qui sont aujourd'hui sous-traitées à plus de 60% dans les entreprises françaises à des prestataires spécialisés. Il en va de même pour les outils utilisés pour gérer les flux d'informations, avec le développement des progiciels achetés, clés en main. C'est enfin le cas pour les prestations intellectuelles, avec le très fort développement du marché du conseil en logistique. Mais la logistique, en tant que démarche systémique de l'entreprise, telle que nous l'avons définie, ne se sous-traite évidemment pas. Et pourtant, là aussi, Dieu sait si on lit ou on entend la sous-traitance de la logistique. Non, la logistique, personnifiée par des logisticiens dans les entreprises, quelle qu'elle soit, y compris de service d'ailleurs, est intrinsèque à leur fonctionnement même comme le sang qui irrigue le corps de l'homme. La logistique s'étend, cinquième tendance, dans de nouveaux secteurs économique. Jusqu'ici, il faut le dire, cette démarche logistique globale ne s'est véritablement développée que dans certains des secteurs de l'économie. C'est vrai de l'automobile, l'électronique, l'avionique, la chimie, la pharmacie, les produits de grande consommation, l'agroalimentaire, mais d'autres secteurs sont moins avancés. On peut notamment citer les travaux publics ou le bâtiment. Un secteur est en train d'émerger, celui de la santé, et plus particulièrement les établissements hospitaliers. Les améliorations possibles de performance dans ce secteur, performance par le service aux patients, par une meilleure utilisation des salles, des équipements, mais aussi par une réduction des coûts pour les produits achetés, stockés, mais également pour la maintenance des équipements, ces possibilités d'amélioration sont considérables. Et à ce titre, il faut saluer les initiatives qui ont été prises, qui sont en train d'être prises dans ce domaine. Un autre secteur émerge, hors des biens matériels, celui de la réservation et de la gestion des places d'avion et des réservations d'hôtels. Ces services sont assez particuliers parce que leur valeur baisse au fur et à mesure qu'on s'approche de leur date d'exécution. La logistique de ces services se développe. C'est l'objet de ce qui s'appelle le yield management. Excusez-moi, là aussi, le terme, à ma connaissance à ce jour, n'est pas traduit. Sixième évolution, la logistique des retours, ce qu'on appelle aux États-Unis la reverse logistics. Un formidable défi à relever dans les décennies à venir pour nos sociétés en général, nos États et nos entreprises en particulier, porte sur la récupération, le démantèlement et le recyclage des matières, des emballages, des déchets, des produits en fin de durée de vie. Or, on ne le dit pas suffisamment, il s'agit d'abord d'un énorme problème de logistique, dont il faut reconnaître qu'il n'est pas vraiment bien géré actuellement. Un seul exemple. Au nom de la protection de l'environnement, donc du recyclage, on multiplie aujourd'hui les camions sur la route qui viennent à vide chercher des produits à recycler à des endroits où, quelques minutes avant, sont repartis à vide des camions qui viennent de décharger des produits finis ou d'autres. Savez-vous qu'en moyenne, un camion sur trois sur les routes d'Europe roule à vide? Quand vous êtes derrière un camion, dites-vous qu'il y a une chance sur trois qu'il roule à vide. Pour deux camions pleins, il y en a un vide. La logistique des retours devra s'inscrire dans une approche environnementale globale pour ne pas créer de l'anti-environnement au nom d'une protection de l'environnement. Septième tendance, septième évolution, déjà commencée, l'identification permanente des produits, l'automatisation de cette identification, ce qu'on appelle la traçabilité. Depuis longtemps, les logisticiens veulent pouvoir identifier les produits et pour gagner en productivité, ont développé de l'identification automatique tout le long de la chaîne logistique, notamment grâce au code à barre que l'on connaît bien et demain par les puces électroniques dans les produits ou dans les emballages. Mais le devoir de sécurité, de protection des consommateurs, rend de plus en plus indispensable d'aller plus loin, d'avoir une identification permanente des produits, de leur localisation, avec la connaissance précise de l'origine de tous leurs composants. Nous l'avons vu il y a quelque temps avec Perrier, plus récemment avec Coca-Cola, listériose dans les fromages, etc. pour obtenir cela, il faut, au-delà de l'automatisation, des systèmes d'information qui gardent l'ensemble de ces informations, d'où une grande complexification. Mais c'est aussi une formidable occasion pour les logisticiens de pouvoir suivre en temps réel la totalité de leurs flux. Enfin, bien sûr, l'impact des nouvelles, et l'on m'a dit il y a quelques jours qu'il ne faut plus dire nouvelles, donc des technologies de l'information et de la communication, nous allons le traiter, bien sûr, dans le troisième et dernier chapitre, logistique et entreprise virtuelle. Par définition, est dit virtuel ce qui n'est pas matériel. La base de l'entreprise virtuelle classique, dans son sens un peu restreint, c'est le concept de groupware que l'Académie nous demande d'appeler le collecticiel, mais je ne crois pas que ce soit très utilisé, donc je crois que je compte même utiliser groupware, qui est donc cette gestion collective de projets par des réseaux qui relient entre elles des personnes qui ne travaillent pas physiquement au même endroit, mais qui, par le réseau, s'échangent, en temps réel ou non, toutes les informations nécessaires pour la gestion d'un projet commun. Et on différencie deux types d'entreprises virtuelles. L'espace virtuel, qui regroupe des personnes d'une même entreprise, et l'affaire virtuelle, qui voit travailler sur un même projet des personnes d'entreprises différentes, parfois à l'autre bout du monde, parfois qui ne se connaissent même pas, simplement à travers le réseau interposé. Dans ce sens un peu restreint de l'entreprise virtuelle, le rapport avec la logistique, au moins la logistique de flux, est quasiment inexistant. En revanche, il est important, avec le soutien logistique intégré, car une utilisation importante du groupware concerne ce qu'on appelle l'ingénierie simultanée, concurrent engineering, qui est une partie importante du soutien logistique relative à la conception des produits ou des équipements complexes. Il s'agit de faire d'une façon simultanée l'ingénierie du produit ou de l'équipement. Ceci se fait de plus en plus par réseau, en utilisant bien sûr le groupware, le principe du groupware. Pour la logistique de flux, une perspective intéressante existe avec un outil de l'entreprise virtuelle qui est le workflow, traduction officielle, automatisation des processus administratifs. Les circuits administratifs, notamment pour les engagements, qui a le droit de passer telle commande, etc., pour les contrôles, représentent une part non négligeable des coûts logistiques dans une entreprise, mais surtout, ils sont souvent à l'origine de délais importants, de pertes dans la qualité de service. Le développement, voire la généralisation du workflow, contribuera notablement à une gestion immédiate, au moins de la partie administrative, des circuits logistiques. Un seul exemple, cela permet qu'un réceptionnaire, qui doit donc réceptionner des matières achetées dans une entreprise, lorsqu'il va faire sa réception avec l'utilisation d'un workflow sur un écran, la personne qui a passé la commande a mis que lorsque le réceptionnaire va vouloir faire la réception, il y a immédiatement le message qui apparaît et qui est bloquant pour que le réceptionnaire puisse confirmer qu'il est bien d'accord avec le produit, qu'il faut vérifier tel élément de qualité, tel élément d'emballage, telle information qui est bien située sur le produit. Et seul en donnant cette information, en confirmant qu'il a vérifié la qualité, le réceptionnaire pourra poursuivre son activité. Voilà un message arrivé par workflow au moment même et obligatoirement au moment de la réception. Cela peut permettre également donc la transmission de messages immédiats, notamment pour prévenir à l'intérieur de l'entreprise étendue, un fournisseur, un sous-traitant, mais d'abord, bien sûr, un client, d'une modification par rapport au planning prévu. D'une façon plus générale, il faudra dans l'avenir traiter dans les entreprises les informations et les documents comme des matières qui sont achetées, transformées, stockées, livrées. Une information qui dort, un dossier qui reste dans une pile sur votre bureau, c'est de l'argent qui dort. C'est une absence de valeur ajoutée. Cette information pourrait, devrait servir à quelqu'un. Et des entreprises, je pense à La Poste par exemple, consacrent ou ont consacré des études à cela. L'entreprise virtuelle, dans cette définition classique, doit favoriser une bonne application des principes logistiques au flux d'informations. L'information quand il faut, là où il faut, au coût minimum. De la même façon que la logistique de flux, c'est le produit quand il faut, là où il faut, au coût minimum. Eh bien, il en va de même pour les informations. On peut donc dire que l'entreprise virtuelle, c'est l'application des principes de logistique au flux d'informations. Mais en fait, l'entreprise virtuelle a aujourd'hui un sens plus large. Et quand le titre de la conférence m'a été proposé, je pense que cela a été inclus pour décrire une entreprise qui utilise Internet, notamment dans ses relations avec ses clients, on parle de magasins virtuels. Et c'est ainsi qu'est apparu le terme dit logistique, E, trait d'union logistique, qui regroupe en fait deux concepts. D'une part, l'utilisation d'Internet pour la logistique, et d'autre part, la logistique du e-business, c'est-à-dire du commerce électronique. Internet pour la logistique. D'une façon beaucoup plus économique et probablement moins contraignante que l'EDI, l'échange de données informatisées, Internet va permettre, commence à permettre, aux logisticiens de gérer immédiatement et sans erreur tous les flux d'informations, tant en interne que dans l'entreprise étendue. C'est cela qui permettra d'alimenter le système expert, planifiant et contrôlant à tout moment la bonne correspondance de l'offre et de la demande. À ce titre, il est significatif de noter qu'un livre récent paru il y a 3 mois, préfacé par Michel Bon, sur la cyberentreprise, consacre plus de 10 pages aux NTIC au cœur de la logistique. Bien qu'on parle de cyberentreprise, il y a bien là une application des nouvelles technologies au cœur de la logistique. Par ailleurs, Internet voit le démarrage des centrales d'achat par le net, on a vu un certain nombre d'annonces récemment, ce qu'on appelle les marketplaces, qui pourraient entraîner d'importantes modifications dans les relations entre les fournisseurs et les donneurs d'ordre. Ces modifications porteront-elles aussi sur le fonctionnement logistique entre les entreprises ? Il est trop tôt pour le dire. Je rappellerai juste que cela n'a pas été le cas pour les centrales d'achat de la grande distribution en France. Elles n'ont pas eu d'implication directe en logistique. Enfin, on peut ajouter que les premières centrales d'achat de prestations logistiques sont en train d'apparaître sur le net. Mais au-delà de l'utilisation d'Internet en logistique, il y a bien sûr la logistique du e-business ou du commerce électronique. Il revient, je crois, à d'autres conférenciers de l'UTLS de traiter du développement des entreprises vendant par le net, à l'avenir encore incertain. Je rappellerai une récente étude du très sérieux Gartner Group qui prévoit la fin de l'e-business pour 2006, au moins sous sa forme actuelle. Mais je voudrais juste m'attarder sur un point à propos du commerce électronique et de la logistique. Il est assez étonnant de voir que la création et le développement, important, fulgurant, de ces entreprises d'e-business se soit fait sans quasiment de préoccupations logistiques. Les anecdotes sur les problèmes, les erreurs, les retards de livraison de produits commandés sur Internet, de produits qui n'arrivent pas, de produits n'existant pas, pullulent, je pense qu'un bon nombre d'entre vous en ont. Plus grave, mais est-ce qu'il y a plus grave que la non-satisfaction d'un client ? Il est reconnu que les pertes importantes de ces entreprises, pensons par exemple à Amazon.com, sont liées à des coûts logistiques mal maîtrisés. En soi, d'ailleurs, c'est un formidable retour en arrière. Depuis près de 2 siècles, le petit commerce, puis la grande distribution plus récemment, avait peu à peu massifié les flux de marchandises jusqu'à un endroit proche du consommateur, et donc de réduire les coûts logistiques. Aujourd'hui, l'e-business risque de morceler ses flux. Est-ce qu'on va voir demain chaque foyer livré quotidiennement par 40 camionnettes qui apporteront chacune quelques produits commandés sur Internet ? Ce serait évidemment une aberration économique et écologique. Il faut donc mettre en place de nouveaux réseaux de distribution, ce que j'appelle retricoter les flux, en fait, inventer une nouvelle logistique appropriée à l'e-business. La révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication a entraîné que, du jour au lendemain, les informations commerciales ont été rendues accessibles à tous et les flux administratifs et financiers traités immédiatement. On a cru, on croit, les consommateurs croient que l'espace et le temps ont disparu. On a simplement oublié un peu vite que cela ne s'applique pas aux marchandises, aux produits, qui, eux, restent dramatiquement bien matériels et qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont transportés ni par électronique ni par les ondes. Une définition déjà un peu ancienne, un peu philosophique, de la logistique, c'est que c'est la réduction de l'espace-temps. Cette définition avait été donnée bien avant ces nouvelles technologies. Cette réduction peut maintenant être totale pour les échanges commerciaux et financiers, alors que pour les flux physiques, c'est l'inverse. Les évolutions actuelles pousseraient à l'accroissement, à une divergence. L'internationalisation des échanges, donc l'allongement des distances à parcourir, un double morcellement des livraisons, d'une part dû au flux tendu pour les flux industriels, ce qu'on appelle le B2B, le business to business, et d'autre part morcellement dû aux commandes par Internet pour les livraisons des consommateurs, le B2C, le business to consumer. Mais accroissement également de ce couple espace-temps dû, dans certains pays industriels, à la saturation des infrastructures, dû à une préoccupation croissante et normale de la protection de l'environnement, etc. Peut-on espérer sortir de cette divergence entre l'espace-temps immédiat de l'information, de la finance, et un espace-temps plutôt, au contraire, divergent dans le domaine logistique? Quelle perspective? Sans doute faudra-t-il passer par une meilleure utilisation des modes de distribution en France comme dans le monde, et notamment des modes de transport. Sans doute faut-il que se développe aussi une coordination, au moins au niveau européen, entre les politiques d'aménagement du territoire, mais également avec les régions, et que ces politiques prennent en compte les éléments logistiques. On peut peut-être aussi imaginer une certaine automatisation dans le transport, notamment sur certaines grandes distances, mais également en ville, pourquoi pas par l'approvisionnement souterrain des marchandises. On peut également, je l'ai déjà souligné, espérer que rapidement soient mis au point, puis utilisés, de véritables systèmes experts qui optimiseront globalement la logistique, qui piloteront avec planification, exécution et contrôle et maîtrise, probablement d'ailleurs pour plusieurs entreprises à la fois, pour rendre les flux complémentaires. En bref, est-ce qu'il n'est pas temps de déployer la même imagination, les mêmes efforts pour les marchandises que ce qui a été fait ces dernières décennies pour la circulation des informations et de l'argent? Dans tous les cas, l'effort principal, au moins à court terme, à poursuivre, à accroître, est pour moi de développer la formation et la compétence. D'abord auprès des logisticiens, les futurs logisticiens, les étudiants, mais également ceux qui travaillent dans les entreprises, qu'elles soient industrielles ou de services, dans le secteur public, mais développement de la formation et des compétences également auprès de tous les responsables des autres fonctions, puisque nous l'avons vu, ils sont partie prenante dans la même démarche. La virtualité naissante de l'entreprise fait ressortir, à contrario, le besoin croissant d'une meilleure maîtrise de la logistique, du supply chain management si vous préférez, mais n'est-ce pas l'heure de la revanche des intendants, avec la particularité qu'avec une logistique maîtrisée, l'intendance ne suit plus, elle précède. En soulignant que les logisticiens, comme on aime à le dire, ont en même temps la tête dans la stratégie et les pieds dans les palettes, c'est-à-dire qu'ils doivent concilier à tout moment l'intérêt de l'entreprise et la réalité du terrain. Telle est la science logistique qui émerge, par erreur corrigée, comme dirait aurait dit Gaston Bachelard, en logistique, comme dans toute activité, il faut oser se remettre en cause, comme l'écrivait Charles Dubos, il s'agit à tout moment de sacrifier ce que nous sommes à ce que nous pouvons devenir. Merci.
Alors, passons aux questions.
Mais je voudrais, s'il vous plaît, vous poser la question suivante, qui tient au rôle central de l'informatique dans le fonctionnement de la logistique et de l'utilisation des ERP en particulier. Compte tenu du fait de la standardisation de l'organisation qu'impliquent ces logiciels, lorsque toutes les entreprises utiliseront un produit tel que SAP par exemple, n'auront-elles pas toutes la même organisation, supprimant par là même l'avantage concurrentiel qu'elles pourraient avoir les unes par rapport aux autres ?
La question est d'autant plus pertinente que dans mon propre secteur, il n'y a principalement plus que trois grands groupes internationaux et que ces trois gros groupes ont fait le choix du même logiciel, celui que vous avez cité, et que donc effectivement, on peut s'interroger s'il n'y a pas là une perte d'avantage. Oui, en partie. Oui, il est vrai qu'il y a derrière ces ERP un modèle organisationnel de l'entreprise pour rechercher la meilleure productivité et que certaines entreprises étaient en avance sur cette intégration des processus entre eux, principalement les processus financiers, logistiques et de ressources humaines, puisque c'est les trois principaux processus des ERP, et qu'elles perdent cet avantage en ayant le même. Non, dans le sens où ce modèle ne concerne que la partie des systèmes d'information, d'abord que les systèmes d'information, qui n'est pas toute l'organisation de l'entreprise, et que la partie des systèmes d'information qui est informatisée. Il reste tout le domaine que l'on appelle en général celui des procédures, qui fera de plus en plus la différence. Ensuite, ces fameux logiciels standardisés comme vous le savez, ce paramètre, et Dieu sait si le paramétrage peut être compliqué, en tout cas il est complexe, et dans un bon ou moins bon paramétrage, il y a là également différenciation entre les entreprises. L'autre remarque, réponse que je voudrais faire, c'est que cette généralisation de l'utilisation des ERP, et notamment de l'un d'entre eux, va aboutir un peu aux risques et aux avantages que l'on a vus dans le développement de Windows. C'est vrai. L'avantage étant que l'on voit aujourd'hui, c'est le cas entre l'aérospatiale et Airbus, deux entreprises différentes qui, ayant le même ERP, les ont fait dialoguer, ce qui enlève une bonne partie des circuits administratifs entre les deux entreprises et une forte amélioration de la productivité, en tout cas dans la planification. Les inconvénients, on les voit bien également.
D'entendre les économistes souvent faire appel, enfin évoquer plutôt des paroles de généraux ou faire appel à la théorie des jeux. Et donc, ils voient un monde comme un monde finalement où il n'y a que des guerres. Ce sont des guerres économiques, je veux bien, mais ce sont des guerres quand même. Quel est le monde auquel on veut aboutir ? Ou bien vos critères d'optimisation sont la valeur ajoutée des entreprises, ça paraît tout à fait normal pour les gens qui s'occupent d'économie, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que l'optimisation pourrait se juger peut-être à l'échelon mondial, et finalement, il y aurait une optimisation, mais les critères de réussite de cette optimisation seraient des critères mondiaux et pas des critères d'une ou de deux ou de trois entreprises.
Alors, je crois que vous avez raison. Si dans notre domaine, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de développement dans le domaine militaire puis militaro-industriel, c'est que des budgets importants en recherche, en développement des concepts, des normes, ont été développés avant les autres secteurs de l'économie, notamment aux États-Unis. Je vous rejoins bien sûr que le but premier, c'est la création de la valeur, et si possible en créer davantage que ses concurrents, mais ça c'est le monde concurrentiel dans lequel nous sommes, création de la valeur. Là où je vous rejoins, et c'est la limite, parce qu'il ne s'agit pas de penser, en tout cas pas dans ma conception, à un monde totalement planifié par des personnes extérieures aux entreprises qui obligeraient à certains flux. Non, la solution, c'est effectivement dans le regroupement des entreprises dans ce que l'on appelle l'entreprise étendue, dans ce qui commence à se développer, qui était assez impensable il y a quelques années, le partenariat des entreprises avec leurs fournisseurs et avec leurs clients. Et lorsque aujourd'hui, par exemple, les industriels de produits de grande consommation se mettent autour d'une même table avec la grande distribution pour mieux organiser les flux, c'est bien sûr dans leur intérêt mutuel, réduire les stocks, remplir davantage les véhicules, ne pas peut-être tomber dans certains travers que l'on a pu constater dans le passé des flux tendus. C'est dans leur intérêt, mais ce sera dans l'intérêt global de la collectivité, et ça ajoutera de la valeur, ou en tout cas ça réduira les coûts logistiques de part et d'autre. Donc oui, il y a, mais ce n'est qu'un début, des partenariats, des organisations plus globales, et les consultants d'ailleurs jouent un rôle pour cela, des partages sur l'organisation logistique entre les entreprises.
Oui, bonjour monsieur, c'est moi. Oui. J'avais lu dans l'IB, mais j'ai pas le droit de faire de la pub pour les journaux, j'avais lu un article sur les conséquences de la chose dont on a traité aujourd'hui, des nouvelles technologies et autres. Et bon, par rapport à l'entreprise de logistique, quel peut être l'aspect de la médecine vu par cette entreprise logistique. Dans Libération, ils avaient parlé d'un truc qui m'avait fait bondir, moi qui suis secouriste. C'est assez marrant parce que on arrivait à un truc qui était que le malade, il pouvait même pas sortir du lit, il pouvait ne pas sortir du lit, il pouvait consulter son médecin par internet, par machin virtuel, truc de dans ce goût-là, lequel médecin pouvait prévenir par les mêmes mécaniques et envoyer son ordonnance à la pharmacie, qui pouvait elle-même envoyer les médicaments au malade qui n'avait même pas besoin de bouger de son plumard. C'est quand même dingue, ça.
Bon, je ne répondrai pas directement sur l'utilisation des nouvelles technologies, plus particulièrement du net, dans l'aspect humain de la médecine. J'ai abordé l'émergence des préoccupations logistiques dans le domaine de la santé, plus particulièrement des établissements hospitaliers, pour ce qui est, d'une part, du soutien logistique, c'est-à-dire de la disponibilité des salles, des équipements, etc. Sait-on qu'il y a actuellement, dans certains services, à certaines périodes, 20% d'opérations reportées parce qu'il manque quelque chose pour faire l'opération ? Alors ça, c'est un surcoût, un manque de valeur ajoutée, tout ce que vous voulez, un surcoût pour la collectivité, idiot, simplement parce que la logistique est mal organisée. Il y a aussi un taux relativement important de médicaments à date de péremption passée qui sont jetés chaque mois, etc. Alors, dans l'intérêt de la collectivité, on peut, par une meilleure organisation, et notamment par l'utilisation des nouvelles technologies, améliorer donc simplement la performance logistique. En ce qui concerne les rapports humains, faut-il raisonner en termes de performance ? Je ne répondrai pas à cette question.
Monsieur ? Oui, ici. Oui. Vous avez manifestement une vision très large de la logistique et j'aimerais savoir, selon votre expérience, si l'introduction de la logistique et surtout la façon dont l'entreprise se conçoit de plus en plus autour de sa logistique et des rapports qu'elle a avec ses divers partenaires modifie son identité ou la conception qu'elle a de son identité.
Ce serait sans doute trop ambitieux de répondre positivement. Je crois que l'introduction d'une véritable démarche logistique telle que je l'ai définie dans une entreprise aboutit d'abord à mieux faire comprendre dans la stratégie du rôle du service, donc dans l'offre client, du service par rapport au produit. Et le produit lui-même dans tout ce qui peut entourer le produit dans les services apportés aux consommateurs, aux utilisateurs. Et cela peut faire évoluer assez fortement la stratégie, donc d'une certaine façon l'identité de l'entreprise. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que de par l'interrogation sur l'organisation, ce lien entre les différents niveaux dont j'ai parlé, depuis le terrain jusqu'à la stratégie, en passant par la planification et le contrôle, je pense notamment par l'insistance sur ce lien entre planification et contrôle, alors là, je crois qu'effectivement, la démarche logistique fait évoluer au moins l'organisation de l'entreprise et donc là aussi, d'une certaine façon, son identité. Enfin, une démarche logistique mature, comme je l'ai dit, amène à une plus grande sous-traitance, donc aide l'entreprise à se focaliser sur son cœur de métier, ce qui est aussi, je pense, pour son identité, une bonne chose.
Et on va prendre une dernière question.
D'accord, non, mais comme j'ai déjà parlé dans cette assemblée, je voulais laisser la parole. Mais enfin, j'ai 4 ou 5 points. Déjà, est-ce que vous seriez d'accord pour une visée critique de la logistique comme finalement science de la réduction des coûts dans l'entreprise. Je parle là d'une logique interne à l'entreprise qui donc transmurait, je dirais, le logisticien en chercheur de réduction à tout prix et tous azimuts. C'est-à-dire, si l'homme peut être... Vous voyez ce que je veux dire, bon, sur le plan humain. Deuxième aspect, est-ce que l'État donc, n'a pas... Ça revient un peu à la deuxième question qui était posée sur donc, le rôle de l'État, l'intérêt général, donc pour transformer les règles du jeu logistique qui me paraissent un peu bloquées. Troisièmement, est-ce qu'il vous semble possible une concurrence entre entreprises avec une, qui serait fondée sur une image logisticienne de l'entreprise, c'est-à-dire une espèce d'éthique que pourrait avoir l'entreprise en matière de logistique ? Je pense notamment bon, aux pollutions, etc. Mais enfin, quatrième point, est-ce que même cette évolution donc, entre les flux de l'information et les flux de marchandises, cette distorsion, donc, ne va pas amener finalement à des produits qui vont être de plus en plus virtuels, même voire à des, je dirais, des produits déclinés en version, je dirais, avec des degrés de virtualité plus ou moins forts ou de, voilà. Et enfin, cinquième point, comme vous avez fini sur cette citation de Charles Dubos, est-ce qu'il s'agissait donc dans son esprit de quelque chose à encourager ou à quelque chose, voilà, c'était, voilà, merci. Merci.
Questions, hein.
Alors, très brièvement pour elles chacune. Science de réduction des coûts, non totalement, bien sûr. D'abord parce qu'il y a des réductions de coûts dans l'entreprise, heureusement, qui ne concernent pas le logisticien. On a déjà assez à faire comme ça. Et notamment, la recherche de réduction des coûts dans la production elle-même n'est pas, bien sûr, du ressort de la logistique, ni dans les coûts commerciaux, etc. Je l'ai dit, le logisticien aide à la réduction des coûts logistiques qui représentent en moyenne 12% du chiffre d'affaires des entreprises, ce qui est déjà pas mal. Et par ailleurs, c'est un équilibre, je le rappelle, entre la qualité de service et le coût. Alors, réduction à tout prix, je crois avoir dit que, pour moi, il resterait la dimension humaine. Mais bien entendu, le logisticien utilise l'automatisation, car il y avait dans votre question cette interrogation, l'automatisation lorsqu'elle permet une plus grande performance. Ce dont je suis convaincu, c'est que automatisation à un endroit entraîne emploi à d'autres. Et nous avons la chance de pouvoir dire, et ceci reconnu aujourd'hui dans les quelques études qu'il y a eu sur le sujet, c'est que la logistique, en se développant ces 40 dernières années, non seulement elle n'a pas réduit les emplois, mais au contraire, elle les a fortement augmentés dans notre secteur. Le rôle de l'État, oui, il y a une place à jouer par les pouvoirs publics, l'État, mais les différents niveaux, comme je l'ai dit, pour une meilleure organisation. Les choix qui sont faits par les entreprises sont actuellement en fonction des contraintes légales, fiscales et autres que donnent les États, des infrastructures. Et il y a là une réflexion globale à mener. Je dois dire qu'il a fallu, par exemple, en France, attendre que Jérôme Vignon arrive à la direction stratégie de la DATAR pour qu'on commence à voir apparaître une préoccupation logistique. Troisième point, essayer de développer une image éthique de la logistique, eh bien oui, pas eux en France, mais je constate que dans d'autres pays, en Europe principalement, en Angleterre ou en Allemagne, dans les plaquettes de présentation des entreprises, dans les rapports annuels, il y a systématiquement d'abord un chapitre éthique qui est en partie consacré à la défense de l'environnement et que dans cette défense de l'environnement, la partie logistique est importante. Il faut souhaiter que cela arrive également en France. Quatrième point, cette distorsion peut-elle être résolue par une plus grande virtualisation des produits ? Nous ne pouvons que l'espérer comme logisticien. Donc si vous voulez y travailler, pourquoi pas. C'est peut-être dans ce que je voulais dire en disant qu'il fallait savoir se remettre en cause. Oui, bien sûr, dans cette citation, Charles Dubos voulait dire qu'il faut, de temps en temps, sans peut-être trop savoir où l'on va, même si l'on n'est pas totalement mécontent de ce que nous sommes, savoir effectivement se remettre en cause. Et je crois que ce développement de la logistique tel que j'en ai parlé, l'arrivée de la virtualité et des nouvelles technologies, c'est obligatoirement une remise en cause. Eh bien, sans trop savoir peut-être où l'on va, malgré tout, allons-y. Merci.